Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Fin de semaine du 9 février 2024. Ici Alex Bergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et à Chiz 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine. Avec... amplement de sujets, encore une fois. Que serait la semaine politique sans scandale de la CAQ rendu là? Hein? On en vient trop habitué. Et ça a été une histoire en quatre temps, disons, là, hier, avec, encore une fois, les cocktails de financement de la Coalition Avenir Québec. Commission parlementaire, jeudi. Antoine Bitard et Elisabeth Riviera étaient invités à se prononcer en faveur de l'abaissement de la tolérance d'alcool dans le sang. Donc, faire passer le 0.5 à 0.05. Projet de loi à l'étude. Il était invité parce que ses parents-là ont perdu leur fille parce que, justement, un chauffeur sous mort a percuté le véhicule de leur fille. Elle est décédée. Quand les événements se sont produits, leur a proposé de rencontrer la ministre Geneviève Guilbeault, moyennant évidemment la somme de 200 $, soit 100 $ par convive, pour en discuter, parce qu'eux justement voulaient se faire entendre pour proposer d'abaisser le minimum autorisé en ce moment. Et ça donne que Geneviève Guilbeault, qui c'était celui-là qui avait un gros sou de jaune, elle s'était présentée devant les médias pour annoncer qu'un projet de loi pour la sécurité routière allait être déposé. Et donc, entre cette période-là et aujourd'hui, avant que ces deux personnes-là, Antoine Bitard et Elisabeth Riviera, soient invitées à se prononcer en commission parlementaire sur la possibilité d'abaisser les seuils. Et c'est Mme Riviera qui, en commission parlementaire, a révélé qu'on lui avait demandé à elle et son mari de payer les 200 $ pour rencontrer Geneviève Guilbeault lors d'un événement précédent. Les analystes ont également fait remarquer que c'était un peu le comble de l'ironie de les inviter dans un cocktail pour parler d'abaisser les seuils de sobriété. Ou pour parler de sobriété, je devrais plutôt dire. Donc, cette rencontre-là a eu lieu avant l'annonce de Geneviève Guilbeault. Je les ai rencontrés le 15 juin 2023 et j'ai entamé plusieurs démarches auprès du cabinet de mes collègues de ma collègue du ministère des Transports pour soutenir leurs demandes d'informations. Quelques mois plus tard, une de mes collaboratrices vous a informé de la tenue d'une activité de financement à laquelle participait Geneviève Guilbeault. Celle qui donne cette petite excuse, c'est Marilyn Picard, députée d'arrière-ban de Soulanges, qui a référé les Bita Rivera à se rendre au cocktail de financement, ou du moins, une employée de Marilyn Picard a suggéré qu'ils aillent au cocktail de financement pour jaser 2 minutes chaque avec Geneviève Guilbeault. C'était une erreur de jugement. Je m'en excuse sincèrement en mon nom et celui de mon équipe. Marilyn Picard, députée de Soulanges, qu'elle a publié sur Facebook dans un beau message rédigé par le cabinet des communications qui est en damage control depuis 6 mois. Donc, après que cette information-là a été révélée en commission parlementaire, acte 1, on a décidé de pitcher Marilyn Picard et son équipe sous l'autobus, acte 2, et ça a donné droit à Geneviève Guilbeault qui tente de défendre son intégrité en imposant une conférence de presse en fin de journée hier pour dire « Je suis intègre ». Je n'étais pas au courant des événements, c'est pas vrai qu'on peut m'acheter pour 200$, etc., etc., etc. Donc, évidemment, est tentative de communication échouée. Donc, plutôt que de dire « on s'excuse, on n'aurait pas dû faire ça la personne qui suggérait ça est congédiée », tu sais, le genre de... d'enlever la soupe chaude, mais en pitchant quelqu'un d'autre sous les roues de l'autobus. Clin d'œil à Tasha Kerridin de Zone Info qui dit que c'était une des pires conférences jamais vues dans l'histoire des conférences de presse pour tenter de désamorcer la bombe. C'était complètement raté. Effectivement, c'était peu convaincant. On a demandé à Geneviève Guilbeault si les 200$ allaient être remboursés. Elle a dit que, si jamais la famille voudrait faire la demande de remboursement, à ce moment-là, nous allons leur rembourser le montant en question. Donc, plutôt que de dire « oui, je vais leur faire un chèque », s'ils le demandent, nous allons pouvoir refaire un chèque. Ça ne sera pas de problème. Eh bien, finalement, coup de théâtre ce matin. C'est pas mon quatrième acte, mais coup de théâtre ce matin quand même. La CAQ offre d'office de rembourser les 200$ qu'ils ont versés au parti lors du cocktail de financement pour rencontrer la ministre Geneviève Guilbeault et la sensibiliser à imposer une limite d'alcool de 0,05 comme était normalement le point du jour que cela aurait dû être. Antoine Bittard indique que le remboursement n'était pas une priorité pour sa famille et lui, mais qu'une fois que les 200$ leur ont été remis, ils les remettront eux-mêmes à l'organisme MAD Canada dont ils sont membres et qu'ils méritent pour le point 0,5. Donc, ils n'ont pas de fondation, mais ils sont quand même avec les maires contre l'alcool au volant du Canada. Évidemment, toujours en commission parlementaire, je n'étais pas d'accord, raconte Mme Irévéra. J'ai dit à Antoine, moi, je ne veux pas faire ça, mais on fait tout à deux et il m'a convaincu. On y est allé, on a rencontré la ministre, on a eu nos 2 minutes et honnêtement, quand j'ai quitté l'endroit, j'étais vraiment déçu. J'ai trouvé ça inacceptable qu'on nous demande de payer 200$ pour rencontrer la ministre. Effectivement, ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas le gros bon sens. Hein? Belle expression consacrée maintenant. Même s'il ne comprenait pas pourquoi il devait payer pour rencontrer Geneviève Guilbeault, M. Bittard a dit qu'il n'avait pas hésité longuement avant de sortir le chéquier. Est-ce que je me suis demandé si c'était la bonne manière de faire ou non? Tout ce que je me suis dit, c'est que c'était notre chance, la seule chance que j'avais de parler à Mme Guilbeault. Parce que c'est en parlant aux gens, en leur expliquant notre histoire, qu'il y a un changement d'attitude. Pour nous, c'était la chose la plus importante. Donc, pour un peu devancer, aller au-devant, parce qu'on y aurait pu faire la demande de rencontrer Geneviève Guilbeault dans une rencontre formelle, au Parlement, par exemple, ou dans son bureau, mais tu sais, ça reste quand même une ministre. Fait que c'est pas non plus le député qui a juste ça à faire, attendre des téléphones. Fait que c'était leur chance, pour vrai, de pouvoir s'adresser directement à la ministre des Transports à ce moment-là. Elle l'est toujours, mais elle venait de rentrer en fonction. Donc, de pouvoir s'adresser directement à la bonne personne. Parce que de commencer à jouer au téléphone arabe, justement, de « Ah, mais là, on a parlé à telle personne, de tel bureau qui nous a dit d'appeler à tel numéro, nanana. » C'est sûr que ça, ça ne donne pas le goût, ou en tout cas, ça donne pas le goût au premier abord. Fait que voilà, donc c'était en commission parlementaire cette semaine. Geneviève Guilbeault dans sa conférence, acte 3, comme je dis souvent depuis qu'on parle de ça, je rencontre la grande majorité des gens qui sollicitent des rencontres. Sinon, mon cabinet les rencontre parce que les agendas sont chargés, mais en aucun cas, personne n'a besoin de payer 100$ pour me parler. Ça, c'était sa ligne de défense devant sa conférence impromptue hier, parce qu'évidemment, son nom était de tous les bords, dans tous les côtés du Parlement. C'était la vedette hier. Et malgré le fait qu'on ait décidé de jeter sous l'autobus Marilyn Picard parce que c'est une députée d'arrière-ban, c'est moins pire que le spotlight sur la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault a quand même tenu à enfoncer le clou final dans son dossier hier en apostrophant, pour plus ou moins une bonne raison, Pascal Bérubé du Parti québécois. Et ça, c'est le quatrième acte qui est, comme on le dit, le dernier acte suprême. Parce qu'évidemment, Geneviève Guilbeault est un petit peu fâchée de s'avoir eu une très mauvaise journée au bureau. Donc, plutôt que de laisser couler, parce que celui qui est allé évidemment devant les médias pour le Parti québécois pour justement dénoncer l'attitude de Geneviève Guilbeault, c'était Pascal Bérubé. Donc, se pensant bien, bien fine, Geneviève Guilbeault a apostrophé Pascal Bérubé en disant « Tu sais que toi, t'as oublié de dire que t'invitais dans le temps François Legault à tes cocktails de financement. » En voulant dire « Tu sais, Pascal, t'as beau me faire la morale devant les journalistes, mais t'es pas mieux que moi. » Pascal Bérubé est un peu surpris, mais en bon joueur qu'il est, a répondu à Geneviève en disant « Ouais, mais François Legault n'était plus ministre quand il est venu à mon cocktail. » Tu sais, c'était en 2009. Fait qu'il n'était plus ministre de quelque chose d'important rendu là. Et là, Geneviève, d'essayer de renchérir, puis en 2012... T'as bien invité François Legault. T'as sûrement dû inviter François Legault quand t'étais au PQ aussi en 2012. Pascal Bérubé de répondre non. Il était pas là en 2012. Combien t'en as fait, toi, Pascal, des cocktails de financement quand t'étais ministre du Tourisme? Pascal de répondre un. Toi, Geneviève, veux-tu qu'on parle de tes 42 cocktails de financement? Et elle a fait une face en voulant dire « En tout cas, j'ai raison. J'ai une petite face. Je m'ostinerai pas avec toi. Je suis en train de perdre la face. » Mais le problème avec cette altercation-là, c'est que ça s'est fait devant les caméras. Ça n'a pas été des petits couteaux tranchant, comme si elle était rentrée en coup de vent dans le bureau de Pascal Bérubé pour juste l'attaquer gratuitement. Non, 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 non. Geneviève Guilbeault a décidé de faire ça devant les caméras et le son était enregistré. On a bien entendu Geneviève Guilbeault qui a essayé de faire mal paraître Pascal Bérubé parce que semble-t-il que lui aussi, il y avait François Legault dans ses cocktails de financement à lui dans le temps quand il était même pas au pouvoir. Il était député en 2009. Il était pas... c'était les libéraux. C'était pas le PQ qui était au pouvoir. Et comble de l'ironie, le deuxième argument de Geneviève, puis en 2012, François Legault, il était toujours bien invité aussi dans des cocktails. François Legault était déjà plus au Parti québécois. Il a quitté le Parti québécois en 2009. Donc, probablement que le cocktail de Pascal Bérubé était un de ses derniers en tant que membre du PQ. Parce qu'en 2012, ça faisait déjà un an que la Coalition Avenir Québec existait. Parce qu'on se souviendra. Peu de gens s'en souviennent parce que moi-même, je l'ai googlé hier soir. La CAQ, le début de l'idée de la Coalition Avenir Québec était au début de 2011. Et officiellement, François Legault faisait une conférence de presse en octobre-novembre 2011 pour dire qu'on part la Coalition Avenir Québec et on tente de fusionner avec l'ADQ. Donc, l'argument de Geneviève Guilbeault de « Toi, t'es cocktail en 2012, t'avais bien François Legault avec toi », ben non. Il était déjà en train de fonder la Coalition Avenir Québec. Fait que Geneviève Guilbeault, pour aucune raison, a décidé d'être mesquine avec Pascal Bérubé devant les caméras des journalistes parce qu'il a fait une fois un cocktail en tant que ministre des Transports et que peut-être François Legault était dans la salle, mais il n'était pas ministre. Fait que quand même que sur les cartons d'invitation, il était écrit « François Legault sera là », ben c'était François Legault, le député sortant du Parti québécois qui allait partir son parti 3 ans plus tard. Donc, plutôt que de laisser couler et d'essayer de se faire discrète, Geneviève Guilbeault, en fin de journée, a attaqué gratuitement Pascal Bérubé devant les caméras. Lui, imperturbable, elle, en voulant essayer de n'amener un avec elle dans son scandale du jour, mais que finalement, ça se retourne contre elle et c'est elle qui a eu l'air plus immature. En tout cas, je suis pas la seule. Toi, avec Pascal, tu l'as déjà... Même pas. Et il était pas ministre des Transports. Il était pas ministre du Tourisme non plus en 2009. Mon Dieu, il n'y a rien qui fait de sens là-dedans. Bref, on s'arrête quelques instants. Au retour, la suite de ce deuxième service sur les ondes de CFA 88.3 et de Chiz 94.3. Retour au deuxième service. Comment de bord, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFA, sur les ondes de Chiz, papier foil pour... Le titre, en mélangeant tout ça, Geneviève Guilbeault est bien ministre des Transports et Pascal Bérubé était ministre du Tourisme, mais de 2012 à 2014. Fait que... Pas au Geneviève. À 38 ans, il était le deuxième plus jeune ministre du gouvernement de Pauline Marois, 19 septembre 2012, que Pascal Bérubé accédait aux fonctions de ministre, il était ministre délégué au tourisme et responsable de la région du Bas-Saint-Laurent pour avoir remporté l'élection dans Matane-Matapédia depuis combien de temps qu'il est là? Depuis 2007. Il avait perdu précédemment en 2003 la fameuse élection de Jean Charest contre justement la libérale Nancy Charest avec seulement 33 voix d'écart. Toujours dans Matane-Matapédia et il est depuis le député. Autre sujet cette semaine qui a fait un peu sourciller au sens où c'est une technique étrange de la Coalition Avenir Québec de un peu dire au monde, ben là, si vous arrêtez pas de chialer, on le fera pas. Tu sais, cette espèce de technique étrange-là si vous jouez pas avec mes règles, je m'en vais, je t'annais. Je tente plus. Ça, Fitzgibbon l'avait fait dans une précédente interview, sauf erreur, c'était à Patrice Roy, Radio-Canada. Si les gens veulent pas de Nordvolt, ils n'auront pas de Nordvolt. Tu sais, en voulant dire... là, on fait des projets, le monde chiale pareil. Fait que là, ben, si le monde chiale, vous n'aurez pas de projet. Et François Legault, il est allé à peu près dans ces termes-là cette semaine en donnant son point de presse hebdomadaire. Parce que maintenant, il essaye de se tenir le plus loin possible des gaffes. Donc, même lui est tenu à parler une fois semaine. Et ben, ça réussit pas, encore une fois. Donc, en essayant de comparer le projet Nordvolt à la nationalisation d'Hydro-Québec, les barrages de la Romaine et tout ça, en disant, ben là, si dans le temps, ça avait chialé de même pour les barrages, on n'aurait pas de gros projets au Québec. Fait que le monde qui ose se plaindre de Nordvolt en ce moment, ben, c'est eux autres les pires. On n'aurait pas de gros projets au Québec sans ça. On va en avoir des gros projets au Québec. On vient de garocher 850 millions pour le toit du stade à Montréal. Fait que, tu sais, on a des gros projets, là, François. Come on! Et puis Caroline Proulx qui fait la morale aux journalistes aussi cette semaine parce qu'ils ont osé dire avant elle qu'elle allait annoncer que le toit du stade allait coûter 850 millions. Ça, c'était particulièrement drôle aussi. Caroline Proulx, ancienne animatrice de télé, faut le rappeler, qui dit aux journalistes comment faire leur job. Ah, t'es calme. Revenons à François Legault. Bon, là, si les gens n'allaient pas de chialer, il n'y aura pas de grands projets qui vont se faire au Québec. Le problème, c'est que des projets comme la Romaine et ces barrages-là avaient été dits auparavant aux Québécois que ce projet-là allait voir le jour. Dans le sens où Nordvolt est apparu à peu près de nulle part. Soudainement, le Québec allait devenir la batterie de l'Amérique du Nord, que toutes les règles pouvaient être contournées, que l'environnement n'était pas concerné, on allait signer les papiers directs pour autoriser la construction de la méga-usine sur des lacs, des étangs d'eau protégés normalement, qui a un projet immobilier n'a pas pu voir le jour pour ces exactes raisons-là, mais que soudainement, Nordvolt allait avoir tous les passe-droits, que le BAP n'était pas nécessaire, que les citoyens étaient concernés devant le fait d'aller rencontrer, consulter sur le fait accompli, et que ce projet-là sortait de nulle part. Parce que si François Legault avait fait sa campagne électorale sur le fait qu'il allait construire une énorme usine de batterie de char, la donne n'aurait pas été différente tant que ça, parce qu'il est rentré avec des scores faramineux. Mais là, il aurait pu avoir un justificatif de « les gens ont voté pour nous autres ». Vrai ou non? Mais il aurait pu au minimum dire « au moins les gens ont voté pour ça ». T'sais, il se défend avec cette petite demi-vérité-là en disant « on veut les pleins pouvoirs en immigration, les gens ont voté pour ça ». Plus ou moins. Puis de toute façon, il les a pas, ces pleins pouvoirs-là qu'il demandait à Ottawa. Fait que déjà là, ça aussi, c'est raté. Fait il sort un projet de milliards de dollars de sa poche. Le projet de sa poche, pas l'argent, évidemment. Le projet sorti de sa poche et se surprend que des groupes environnementalistes, des groupes de citoyens concernés, parce que oui, il y en a beaucoup qui disent qu'ils vont envoyer leur CV, mais il y en a une bonne gang aussi qui disent « ça n'a pas de bon sens, on ne veut pas de ça ». Et c'est ça qui est particulier, c'est que un projet de cette ampleur-là, c'est normal qu'il y ait des gens qui disent « wow, minute, attention, là. Vraiment? Point d'interrogation. On va faire ça? Point d'interrogation. » Et parce que soudainement, les gens commencent à se rendre compte que, mon Dieu, on contourne les règles un peu trop facilement pour ce projet-là, que, wow, t'es un peu, y'a-tu... Y aurait-il, par hasard, anguille sous roche? Y aurait-il des choses qu'on nous cache et qu'on ne nous dit pas? Ce qui est complètement justifié comme point d'interrogation, parce que ça l'essaye de se régler tellement rapidement, ce projet-là, que c'est à se demander, coudonc, le contrat avec Nordvolt, y est-tu si mince que ça que le premier obstacle que va rencontrer la compagnie, ils vont déchirer le contrat, ils vont sacrer leur camp? Mais en fait, et encore une fois, c'est pas de la faute à Nordvolt, c'est de la faute aux businessmen qu'est François Legault et Pierre Fitzgibbon, qui en ont que faire des règles et qui vont juste décider de y aller de l'avant parce qu'ils ont signé un deal. Mais les règles d'environnement, parce qu'on se souviendra qu'il existe un ministère de l'Environnement de la CAQ, fait juste signer les papiers de « c'est correct, on déforeste, on assèche les lacs, peu importe ». Ils auront 10 ans, 20 ans pour refaire un lac à côté, peut-être. C'est sûr qu'il va y avoir des points d'interrogation. C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont dire « ouais, c'est peut-être pas un projet si hot que ça ». Et le problème, quand je disais que c'est pas de la faute à Nordvolt, c'est qu'eux autres, ils se sont fait vendre ça comme « on attend ça depuis des semaines et des mois et des années que Nordvolt vienne s'installer au Québec. On veut tellement de Nordvolt que... » Eux autres aussi, probablement, qui font un point d'interrogation de « ouais, il me semble, la population n'est pas de votre bord, tu sais. L'acceptabilité sociale, es-tu tant que ça du bord de Nordvolt ou est plus du bord de « ouais, c'est peut-être garoché un peu, ce projet-là. » La question est posée. Mais est-ce que réellement cet enthousiasme-là est si contagieux que ça? Et après ça, c'est sûr que si on met des bâtons dans les roues de Nordvolt, eux autres, ils vont se dire « ouais, finalement, c'est peut-être pas si hot que ça ». Et c'est sûr que d'autres gros investisseurs comme ça, d'autres grosses compagnies qui voudraient faire des grosses usines de même au Québec, regardent comment ça va avec Nordvolt et évidemment, ils commencent à se dire « ouais, c'est peut-être pas si hot que ça signé dans cette province-là ». Mais c'est parce que les porte-paroles que sont Fitzgibbon et François Legault, eux autres vont penser business. Ce sont des hommes d'affaires à la base. Fait que voilà. Reste à voir comment ça va se dérouler, mais pour l'instant, c'est parti chambranlant, mettons. Mettons que la route n'est pas droite-droite, c'est parti chambranlant. On sera quelques instants au retour de la suite. Ce deuxième service cette semaine, vous écoutez le 88.3 CFAC à Sherbrooke et je chise 94.3 à Québec. Pour Pierre, cœur monarque qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAC, sur les ondes de chise. On a appris, une petite nouvelle télé, on a appris cette semaine que... C'était-tu cette semaine? Enfin, dans les derniers jours. On a appris que finalement, c'est Pierre-Yves Roy Desmarais qui allait succéder à Louis-José Hood pour le prochain gala de la disque. Donc, Louis-José avait officiellement annoncé qu'après, sais-tu, 18 éditions du gala de la disque consécutive, il allait finalement tirer sa révérence, que c'était son dernier gala, celui de l'année dernière, qu'il passait le flambeau. Et finalement, c'est bien Pierre-Yves Roy Desmarais, la coqueluche des dernières années, qui allait hériter du rôle du gala de la disque. Lui-même, musicien, il donne à l'occasion dans la chansonnette sur le web, évidemment. Il est extrêmement... il est connu pour ça, entre autres. Ce qui n'est pas un mauvais choix. Tu sais, c'est un choix, somme toute, logique dans justement de conserver l'idée d'avoir un humoriste qui anime le gala de l'humour. Dans ce cas-ci, lui-même fait de la chanson, donc ça veut dire qu'on va avoir droit à une belle chanson originale pour la prochaine édition. J'ironise un peu, parce que comme pour la revue du Bye Bye, c'était pour moi la chanson, c'est tout le temps le bout un peu étrange. Tu sais, je l'ai réécouté après, ceci dit, là, en réécoutant le Bye Bye, pour faire l'analyse, tu sais, c'est pas une mauvaise chanson, tu sais, ça marche, c'est bon, mais tant qu'à moi, ce n'est pas un moment du bye-bye, tu sais. Encore une fois, j'aimais mieux la parodie de 3 secondes de Flowers que la chanson originale à la place. Mais je comprends l'idée, parce que les chansons humoristiques, c'est réellement un cas de j'aime, j'aime pas et datite. Fait que ça peut être un petit peu difficile, mais dans ce cas-ci, la popularité y est. Les gens sont au rendez-vous pour Pierre Yvoix Desmarais. Il a vendu énormément de billets également dans sa série, son dernier spectacle plutôt. Donc, somme toute, les gens sont contents du choix. On verra bien ce que ça donnera rendu au moment fatidique fin octobre, début novembre prochain pour le premier gala de la disque de Pierre-Yvoix Desmarais. Je l'aurais peut-être quand même donné à un Pierre Lapointe ou une Saramé qui ont fait les pré-galas, qui ont fait l'autre gala de la disque. Petite promotion au gala principal, mais en même temps, c'est sûr que c'est difficile d'animer le gala principal. Ça reste quand même assez particulier, mais on verra bien. Chance aux coureurs, comme on le dit si bien. Sinon, série qui prendra finalement l'affiche après tout le scandale-ish qu'il y avait eu l'automne dernier. Les nouveaux épisodes de La Petite Vie prendront finalement les ondes de Radio-Canada dans leur case semi-officielle du samedi 18h30, oui. C'est après les nouvelles, 18h30, juste avant En direct de l'univers. Donc, les nouveaux épisodes de La Petite Vie seront finalement présentés au grand public. J'avais commencé à les regarder sur l'extra de tout.tv. J'avais profité du mois gratuit. J'ai quand même été finir mes devoirs parce que ce que j'avais vu, c'était les deux premiers épisodes avant d'en avoir parlé il y a quelques semaines pour parler d'un gunfille. Un gunfille, je les ai dévorés. La Petite Vie, ça a été à petite dose. C'est pas complètement aussi mauvais à quoi je pouvais m'attendre. Je partais avec de très grandes appréhensions pour ces nouveaux épisodes-là. C'était pas si pire. On va dire ça comme ça. C'est pas hilarant. Tu sais, c'est correct. C'est pas super drôle comme dans le temps. Tu sais, il y a des épisodes qui se réécoutent dans le temps et qui sont encore extrêmement drôles. Les nouveaux épisodes ne passeront pas à l'histoire. On comprend que c'était un trip de gang de se retrouver toute la gang. Et contrairement, justement, aux précédentes saisons, les 6 épisodes qu'on va voir à la télévision traditionnelle, c'est des épisodes qui suivent. Au sens où c'est pas 6 épisodes fermés de une période de l'année ou quoi que ce soit, ce sont 6 épisodes qui vont se suivre. Donc, c'est une histoire en continu, comme un vrai téléroman, entre guillemets. Ça reste quand même une émission sitcom humoristique. Et ce qui m'a peut-être un petit peu achalé là-dedans, c'est le ton de l'émission. Au sens où on a joué à La Petite Vie, plutôt que de faire La Petite Vie. Tu sais, les personnages ont évolué, c'est sûr, mais les interprètes n'étaient peut-être pas capables de les faire comme dans le temps, parce que justement, ça fait un certain temps. Donc, ils s'amusaient à rejouer leurs personnages. Ça, c'est ce qui m'inquiète d'ailleurs du troisième film Dans une galaxie près de chez vous, c'est que, par exemple, un Guy Jodoin joue ce qu'il pense être le capitaine Charles Patnaud, mais qui va juste trop l'exagérer comme il l'a fait après. Bon, mais La Petite Vie, ça a été ça. Marc Labrèche, en tête de file, jouait Marc Labrèche qui joue Rénal Paré. C'était peut-être celui qui était le moins convaincant de la gang, et c'est très bizarre de dire que Marc Labrèche était le moins drôle de la gang, c'est que c'était trop. Il était trop over tout le monde. C'était trop absurde. À la limite, c'était Rénal Paré qui passe par le cœur à ses raisons et qui revient dans la petite vie. Le ton ne marchait pas pour Marc Labrèche, il était beaucoup trop au-dessus. Pour une raison inexpliquée, Régent, Marc Messier, il est habillé propre. Il est habillé en veston, en chemise. Ce n'est jamais expliqué pourquoi, ce n'est jamais justifié. J'ai pas compris. Parce que normalement, il est supposé être en T-shirt puis en jogging. Là, il est en veston et en complet pendant les 6 épisodes. C'est jamais réellement expliqué. Ben, c'est expliqué dans le premier épisode parce qu'il est allé passer une entrevue pour une job. Mais il est revenu de cette entrevue-là. Là. Il est encore habillé propre. Mais trop propre. Ça ne marche pas. Et de toute façon, la twist finale, c'est un semi... Ben, oui, ben, ça a été dit là, que Serge Thériault venait faire un caméo à la fin de l'épisode. C'est ne serait-ce que l'épisode de Noël avec Claude Meunier et Serge Thériault à Radio-Canada a vendu le punch. Ça a été dit de toute façon également dans les journaux. Le fait qu'ils ont réintroduit Serge Thériault à la fin justifie en plus que les épisodes sont un peu féeriques au sens, c'est comme pas des vrais épisodes. Quand je disais aussi que les jumeaux avaient été garrochés en Europe et c'était terminé, ils en ont ajouté un autre. Trop vieux pour l'âge qu'ils se posaient avoir, mais ils ont rajouté un petit enfant. Je dis pas il est acquis, mais ils ont rajouté un petit enfant. L'intrigue au complet de cet épisode-là repose sur le fait que ce petit enfant-là est là, mais c'est pas un petit enfant qui existait avant. Il est juste apparu là, et il est trop vieux pour l'âge qu'il est supposé avoir. Fait que plein de petits anicroches de même, plein de petits trucs qui, techniquement, ne marchent pas dans la Bible de l'émission. Et en plus, le retour de moment vient faire un gros point d'interrogation sur ce qu'on vient de voir. Je dis ça, je dis rien. Mais Céline a déjà chanté « Ce n'était qu'un rêve ». Je vais dire ça de même. On va arrêter ça, là. On s'arrête une dernière fois au retour. Un peu de cinéma sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Larynx, le petit fou qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de Chiz, sur les ondes de CFAQ. La chanson va finir un petit peu plus rapidement que je pensais. Pendant que la bande-annonce s'en vient, Argyle sera le titre du film auquel on va s'arrêter cette semaine. Donc, comédie, est-ce que ça serait un bon terme d'espionnage? Essayons ce terme-là. Comédie d'espionnage qui a pris l'affiche dernièrement, qui a été produit entre autres par Apple Television, Apple Movie. Donc, film qui met notamment en vedette Henry Cavill, mais pas pour les raisons pour lesquelles on pourrait s'imaginer. Film qui a coûté très cher également, mais qu'on se demande où est passé ce fameux argent-là. Est-il passé à l'écran plus ou moins? Allons au moins entendre la bande-annonce pour ce film-là. Argyle, version française de Argyle. Ça me fait rire quand ils l'écrivent, mais c'est le même titre. Ah, on n'a pas de son étrange. Est-ce que le fil est pourtant bien branché? Oui, allons vérifier. Non, toujours rien. Bon, c'est très étrange parce que je vois que le son sort, mais il n'y en a pas. Donc, on va s'en passer. C'est des choses qui arrivent. Argyle, voilà. Bryce Dallas Howard, c'est bien drôle que ça soit écrit de même, incarne Ellie Conway, l'auteur recluse d'une série de romans d'espionnage à succès. Son idée du bonheur, une soirée tranquille chez elle avec son ordinateur et son chat Alfie. Mais lorsque les intrigues de ses livres fictifs centrés sur l'agent secret Argyle et sa mission pour démanteler un syndicat d'espions mondial commencent à refléter les actions secrètes d'une organisation d'espions réelle, ces soirées paisibles à la maison sont vite oubliées. La prémisse de ce film-là. c'est pas mauvais, mais faut accepter la proposition que les bouts d'espionnage sont pas bien écrits. Au sens où ça se veut être une romancière de livres pas chers, qui s'achète au dépanneur. C'est pas de la grosse littérature, mais ça pogne vraiment gros. Un genre de Fifty Shades of Grey, mais d'espionnage. Puis les gens embarquent beaucoup là-dedans. Là, les gens adorent ça. Ellie Conway, c'est la romancière de tous les temps. Ian Fleming n'a qu'à aller se rhabiller. Son James Bond est pourri comparé à Argyle, qui est l'affaire extraordinaire. Et bon, c'est ça. Là, c'est que on l'aurait vu, entendu normalement dans la bande-annonce, mais bon, il y a un véritable espion qui se présente à elle et qui dit: t'es en danger, suis-moi, je suis le bon, je suis le gentil, je vais te protéger. Et commence à ce moment-là l'intrigue de mon Dieu, comment ça se fait qu'elle sait autant de choses sur des événements qui finalement se sont déjà produits par le passé. Quel est le mystère autour d'elle? Comment se fait-il qu'elle est capable de prévoir ou prédire l'avenir? Ou prévoir le passé, un des deux. C'est vrai que la question est un peu posée également dans le film. Comment se fait-il qu'elle a ce pouvoir-là? Donc, c'est ça. On la suit toute déboussolée avec tout ce qui se passe autour d'elle. Elle tente de survivre malgré tout, disons ça de même. Entremêlé, bon, des passages de son film, comme je le disais, Henry Cavill se ramasse à jouer le Argyle, Argyle en question. Son adjoint ou son co-espion Wyatt est interprété par John Cena. Et la méchante est Dua Lipa. Fait que tu sais, il y a quand même des gros noms sur ce film-là. Ben, Dua Lipa, c'est une chanteuse. Il faut le préciser quand même. Tu sais, il y a beaucoup de noms. Le film a coûté 200 millions de dollars. Est-ce que le 200 millions de dollars est à l'affiche, est à l'écran? Pas nécessairement. Justement, et parce qu'il faut accepter la proposition que le bout roman est mal écrit. C'est toute la scène d'ouverture avec justement Henry Cavill puis John Cena est un peu beaucoup invraisemblable. Mais à quel point c'était voulu? T'sais, à quel point c'était réfléchi? Ou c'est moi qui suranalyse que ces bouts-là sont supposés ne pas être spécialement bons? T'sais, je suis venu à me reposer la question. C'est-tu voulu que ça soit écrit un peu tout croche? Ou c'est le ton qu'on tente de donner à ça? Fait que tu sais, il y a comme une espèce de degré de plus qu'on peut voir, mais qui est peut-être pas nécessairement si véridique. Et c'est un peu ça qu'on reproche à ce film-là, c'est qu'il se prend, oui, au sérieux, mais en même temps, ça se veut être un peu une parodie. Mais est-ce que ça se veut une parodie par eux-mêmes ou malgré eux? Et c'est là la nuance qui est quand même importante, c'est que si c'est pas voulu, l'effet est un petit peu raté. T'sais, si c'était pas voulu que ça soit plus comédique que volontairement sérieux et on fait ça de manière à vouloir faire un James Bond. Fait que c'est pour ça. Il y a comme peut-être certaines clés qui sont pas tout à fait claires et justement, les gens n'étaient pas au rendez-vous non plus. T'sais, le box-office n'est pas spécialement bon pour le film. Oui, il est disponible sur Apple TV, mais ça peut pas être la seule raison. Après ça, est-ce que c'est parce que c'est une proposition originale et que les gens sont toujours frileux sur une proposition originale? Pas nécessairement non plus, j'ai envie de dire. Parce que justement, sur le poster, on a mis les gros noms. On a mis Henry Cavill. On a mis Samuel L. Jackson. T'sais, on a mis le gros monde dans ce film-là sur le poster, même si au final, ils apparaissent pas comme des personnages principaux. T'sais, c'est réellement des personnages secondaires. Et c'est ça la blague, c'est que les deux univers se rencontrent, la vraie vie et l'univers fictif, comment ça se fait que les deux univers se superposent comme ça. Il y a des gens qui ont vu venir l'un des punchs, parce que ça, on peut le dire, il y a quand même énormément de revirements dans ce film-là. Justement, dans ce genre de roman cheap-là, que soudainement, tel personnage n'est pas tel personnage, puis qui va trahir qui, puis qui est vrai, qui ne l'est pas. Il l'a beaucoup dans le film. Encore une fois, est-ce qu'on l'exagère parce que ce genre de roman-là, c'est supposé être ce genre d'intrigue-là un peu cheap? Tu sais, il y a quand même deux, trois niveaux à ça, mais encore une fois, est-ce que c'est volontaire ou c'est comique malgré eux? Je m'interroge quand même un petit peu. Fait que est-ce que c'est volontairement pas bon? Parce que, tu sais, on y retrouve son compte. T'sais, c'est un divertissement, tu sais, oui, et puis crie un peu cheap, mais encore une fois, si on accepte que c'est ça l'idée, que c'est ça le but qui était recherché, ça fonctionne complètement. On comprend que c'est une parodie de ce genre-là, une parodie de James Bond, de « Oh, je vais prendre mon stylo et je vais tuer tout le monde », tu sais. Si on voulait faire ça, c'est amplement réussi. Si on voulait y donner un ton un soit peu sérieux, on passe à côté de la traque, puis d'aplomb à part de ça. Fait que c'est pour ça que je m'interroge. Fait que c'est pas un mauvais film, tu sais, ça reste quand même... ça se veut peut-être une parodie. C'est pour ça que je le sais pas. Je suis vraiment intrigué par ce film-là. Est-ce que c'est une parodie ou est-ce que c'est sérieux? La question est lancée. Ça peut valoir la peine de le voir sur le grand écran plutôt que de le voir sur un écran de cellulaire de Apple TV, mais est-ce qu'on se garoche à aller le voir à plein prix? Pas nécessairement. On peut attendre un mardi. C'est un bon film de mardi après-midi. Mais après ça... Est-ce qu'on a du plaisir? Oui, je ris à quelques occasions. Est-ce que c'est bon tout le long? Non, parce que c'est très long. C'est 2 heures et plus. Fait que c'est un très long film. Beaucoup de scènes qui auraient pu être coupées. Mais justement, parce qu'on a ce loisir-là avec Apple TV de jouer avec les durées au cinéma, peut-être ça devient un brin longuet. Il y a quelques scènes qui sont un brin longuet. Puis tout le segment Bullet Train aussi. Parce que maintenant, des bagarres dans des trains, Bullet Train s'est approprié le genre au grand complet. Train à grande vitesse. C'était assez. Ça se ressemblait beaucoup. Il y avait des bouts qui se ressemblaient, mettons, dans ce segment-là, puis il était long. Fait que voilà. C'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service. À la semaine prochaine. Salut.